Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Qu'attendez-vous du chef d'État actuel et de son gouvernement? Je pense que si nous posions cette question au cours d'un sondage, qui pour une fois ne serait pas truqué, peut se prendre à rêver, il y a fort à parier que la réponse la plus fréquente serait rien du tout. Et déjà, quelques sondages qui sont organisés, plus ou moins falsifiés, n'arrivent pas à cacher cette réaction populaire globale, ce qui se traduit en termes moins courtois par qu'ils dégagent. Et les commentateurs prétendument autorisés, j'entends les professionnels du sondage, dont on attend les sentences, comme jadis la foule inquiète se prêtait à elle pour entendre les oracles tomber de la bouche de la justice, ces braves analystes, donc professionnels, nous expliqueraient doctement qu'on a là, avec cette réaction populaire, je cite, le signe d'une crise du sens de la responsabilité citoyenne, fruit vénéneux d'une surenchère populiste, qui est évidemment générée par les extrêmes, blablabla, etc. En un mot, cette perte de confiance dans les élites politiques et dans ce qu'on appelle d'une manière générique, quel que soit le régime, le prince, serait encore imputé, comme d'habitude, à la perversité de certains partis alternatifs que l'on sait, ainsi qu'à la naïveté des citoyens. Une fois encore, on dédouanerait le prince et son système actuel de toute responsabilité CQFD. Or, il me semble que ce désaveu dont souffre aujourd'hui le prince, pas seulement en France, mais dans tous les pays prétendument démocratiques d'Europe notamment, je crois que cela tient à un premier motif, que l'on ne peut pas prendre en compte, j'entends que ces élites ont la prétention, donc le prince, de régenter tous les domaines de la vie humaine, de subvenir à tout. C'est ce qui lui vaut à ce prince-là le nom d'État-providence qui s'est imposé ces deux derniers siècles. Et ayant convaincu de cela le citoyen, que l'État était un providence capable de tout et là pour régir tout, devant l'échec patent de cette mission impossible, le citoyen ne peut que rejeter ce prince et ses belles prétentions. C'est qu'en fait, nos princes actuels ont oublié que leur seul but était ailleurs. Ce seul but, il est plus simple à la fois qu'il est plus noble. Saint Thomas d'Aquin le donne dans le De Regio, c'est-à-dire de la royauté. Il dit, je le cite, « Voici ce à quoi doit tendre le plus possible celui qui dirige la multitude, procurer l'unité de la paix. » C'est la seule chose qu'on attend du prince. Et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà très noble, c'est la condition de toute vie humaine et a fortiori de toute vie chrétienne. Que le prince assure la paix, le reste ne le regarde pas. Promouvoir la paix, voilà donc l'unique fonction de l'autorité politique. Et s'ils étaient loin d'être parfaits, au moins les contemporains du Christ étaient-ils bien conscients de cela. Et ses concitoyens et congénères juifs, qui espéraient la venue du Messie, qui était appelé par Isaïe prince de la paix, par Anodin, il devait être ce Messie, le roi par excellence d'Israël, restaurateur de cette lignée davidique glorieuse et mieux encore. Et les païens même de l'Empire étaient convaincus que le prince avait cette mission. Vous savez que l'empereur César Auguste, du temps du Christ donc, s'annonçait comme le prince de la paix lui aussi et entendait instaurer ce qu'on a appelé la Pax Romana. Il faut donc que le prince assure la paix. Et nous voyons Jésus qui surgit dans les contrées de Galilée à cette époque où tout un chacun attend du prince qu'il fasse son travail, c'est-à-dire qu'il assure la paix, et qui revendique à son profit un titre royal. Comme on atteste sa réponse à Pilate dans l'évangile d'aujourd'hui, « Es-tu roi ? Tu le dis, je le suis. » La royauté de Jésus, nous le savons, a été refusée, a été éconduite par les Juifs aussi bien que par les Romains. Voilà qu'ils rejettent Jésus, considérant qu'il n'est pas capable d'assurer ce que le prince doit assurer, la paix. Jésus a été chassé par les Juifs et par les Romains, souvenez-vous, comme séditieux, pas seulement comme blasphémateur, mais premièrement comme séditieux. En témoigne le Titulus, c'est-à-dire cette petite pancarte qui était clouée sur le bois de la croix, au-dessus de la personne du Christ, sur lequel on disait « In ri », c'est-à-dire « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». C'est en tant qu'il se revendiquait roi, mettant en péril l'autorité du Sanhédrin chez les Juifs, et mettant en péril l'autorité de l'empereur d'autre part, que Jésus a été crucifié. Voilà le premier motif de la mort de notre Seigneur. On considérait qu'il allait contre la paix, et que donc il ne pouvait d'aucune manière revendiquer un titre royal, puisque le roi était là pour assurer la paix. Le drame de ce rejet du Christ et de sa revendication royale, c'est qu'il était, nous savons, le seul vraiment apte à établir la paix, c'est-à-dire à s'acquitter de la tâche royale par excellence. Pour le comprendre, il faut revenir à la définition que saint Augustin donne dans la Cité de Dieu de la paix, précisément. Il nous dit que la paix est tout simplement une certaine tranquillité de l'homme. Jésus est apte à établir la paix, et donc à être le roi par excellence, parce qu'il est seul apte à établir une définitive tranquillité de l'ordre. Allons plus avant, qu'est-ce qu'on entend par ordre? Ce n'est rien d'autre que, finalement, la justice. Jésus est apte à établir la paix durablement parce qu'il est seul apte à rendre véritablement justice, à établir la justice. C'est ce que nous dit le psaume 84e, justice et paix sans grâce. Pas de paix sans justice. Jésus est capable d'instaurer la paix, donc d'être le roi par excellence, parce que seul il est capable d'instaurer la paix, la justice. Pardon. On me dira que cela, les païens sont convaincus, et qu'aujourd'hui encore, dans notre république un peu étrange, on attend toujours du prince qu'il établisse la justice. Le régime communiste s'est avancé, drapé dans les plis sacrés de la justice. Et le Reich s'est lui-même avancé, prétendant qu'il allait rendre justice. Oui, mais il y a un pas avec la justice devant Jésus. Ces régimes, qui sont tous des régimes fantoches, des régimes faits de main d'homme, instaurent la justice pour les pauvres. C'est-à-dire que le prince attend que ses citoyens lui rendent justice. Mais lui n'entend pas rendre justice véritablement et entrer lui-même dans une démarche de justice. Or, Jésus, que fait-il? Il s'offre pour rendre lui-même justice. Il s'offre comment? Le plus littéralement possible, c'est-à-dire il offre sa vie pour que justice soit rendue. Pour que justice soit rendue au premier auquel il faut que justice soit rendue, Dieu le Père. Il offre son sang, ce que saint Paul nous dit dans l'épître d'aujourd'hui, cet épître magnifique, pour que justice soit rendue. Il paye la dette en justice au Père par le prix de son sang. C'est alors, et alors seulement, c'est ce que dit saint Paul, que la paix peut advenir. Le Christ Jésus est un justicier dans le sens où lui-même accepte de servir à ce que la justice soit rendue, non seulement à l'égard de son Père, mais également à l'égard de tout un chacun. Que fait le Christ au cours de sa vie? Il est le juste par excellence. Il accepte de livrer sa vie non seulement pour payer la dette, mais pour le bien de tout un chacun. Il restaure dans leur droit bafoué toutes ces personnes qui étaient conduites par les prétendues élites de l'époque. Tous ces publicains, tous ces samaritains, tous ces bergers qui étaient mis aux marges de la société, tous ces anabîmes, les pauvres de Dieu, qu'on tenait pour rien, ils restaurent dans leurs droits tous ceux que l'empire païen, orgueilleux, mettait aux marges de la citoyenneté. Jésus n'est pas un révolutionnaire, mais Jésus rend justice à toutes ces personnes, leur donnant la place qu'elles ont dans le dessein divin. Voyez donc que Jésus accepte de s'offrir pour que justice soit rendue et donc que la paix vienne. Et à ce titre, il est le seul véritable souverain digne de ce nom. Mais frère, vous me direz que tout cela est très beau, que d'abord vous le saviez parfaitement, et que d'autre part, vous ne voyez pas très bien en quoi votre propre vie serait affectée par cela. Mais mes frères, il ne nous est rien demandé d'autre que d'entrer dans ce même mouvement. Je vous renvoie à l'épître de saint Paul, que décidément je vous invite à lire vraiment cette semaine pour en tirer tout son fruit. Il y est fait allusion au Christ tête de l'Église. Je vous fais remarquer que la loi qui préside à votre tête est la même que la loi qui préside à votre corps. Et que si nous sommes membres du Christ, et que le Christ rend justice pour que la paix advienne, nous autres n'avons pas d'autre solution que de nous livrer nous-mêmes pour que justice soit rendue. De manière très simple, à l'égard du Père éternel, en nous acquittant de la dette que nous avons en justice envers lui, qui est celle du culte, que chaque jour nous puissions de plus en plus honorer Dieu comme il doit l'être, et qu'à l'égard de nos conjoints, enfants, parents, proches, et même ennemis, nous puissions nous offrir pour que justice soit rendue, justice selon l'acception chrétienne du terme, c'est-à-dire magnanimité. C'est cette justice qui va au-delà de celle des scribes et des pharisiens qui comptent sans cesse des boutiquiers juifs. C'est cette justice qui se donne au peuple. Vous voyez, mes frères, que nous avons là du pain sur la planche. Si nous voulons que la paix enfin règne dans cette société, au lieu de se contenter de revendiquer que le Christ soit mis à sa place, ce qui est déjà fondamental, nous devrions peut-être examiner notre propre vie et nous demander si nous-mêmes nous nous offrons réellement chaque jour en tout petit émissaire pour que justice soit rendue à Dieu le Père et à nos concitoyens. Je vous laisse à la méditation de ce que je viens de vous dire, en rendant également à la Vierge Marie, qui, plus que tout autre, a su se mettre à l'école de son Fils et faire en sorte que justice soit rendue en elle, en s'offrant par les glaives transpercées à son cœur, en agneau immolé, et qui était, à ce titre-là, qui a pu être appelée Reine de la Paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.